إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وها نحن وصلنا إلى الحديث التاسع. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam النووي et nous sommes arrivés au 9e hadith. فلنبدأ بقراءة الحديث. عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Donc commençons d'abord par la lecture du hadith d'aujourd'hui. Abu Huraira radiyallahu anhu, Abd al-Rahman ibn Sakhr radiyallahu anhu a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le, selon votre capacité. Car ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédé, ce fut bien leur question excessive » et leur divergence, leur opposition envers leur prophète. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Donc nous allons d'abord commencer par une brève biographie du rapporteur du hadith. Wa rawi al-hadith huwa Abu Hurayrata Abdurrahman ibn Sakhr الدوسي من قبيلة الدوس إحدى قبائل اليمن. Donc le rapporteur du hadith, c'est le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, qui s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr, radiyallahu anhu. Et il fait partie de la tribu de Daws, qui est une des tribus du Yémen. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى عبد شمس فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيته أبو هريرة وكان قومه يلقبه بها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلقبه بأبيهر. أبو هريرة رضي الله عنه avant d'embrasser l'islam était appelé Abdou Shams. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abdurrahman. Et sa kunya est Abu Huraira. Ainsi son peuple le surnommait. Et dans beaucoup de hadiths et dans beaucoup de circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait Abahir. ودخل أبو هريرة رضي الله عنه الإسلام سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر. وكان عمره حين ذاك نحو من 30 سنة فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمه ملازمة تامة رغبة في العلم. أبو هريرة رضي الله عنه a embrassé l'islam la 7e d'année après l'égir du prophète صلى الله عليه وسلم entre l'événement de l'Hudaybiyya et la bataille de Khaybar. Et à ce moment-là, Abu Hurayra رضي الله عنه était âgé d'une trentaine d'années. Et il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a gardé la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue. Et en recherchant la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة. Et Abu Huraira radiallahu anhu faisait partie des gens de Suffah. C'était des gens qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient ni logement, ni bien. Et donc ils vivaient dans la mosquée et les gens les aidaient à subvenir à leurs besoins. Yaqulu Abu Huraira radiallahu anhu, Wallahi alladhi la ilaha illahu, in kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al-ardi min al-ju' wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju'. والحديث رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه نودي. Et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari. Il dit par Allah, je m'appuyais face à terre contre mon ventre du fait de la faim. Et il dit, je m'attachais une pierre contre mon ventre à cause de la faim. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. وأبو هريرة رضي الله عنه له مناقب كثيرة. Et Abu Huraira, comme nous allons le voir, a beaucoup de mérite. فَمِنْ مَنَاقِبِهِ مُلَازَمَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Parmi les mérites d'Abu Hurayra radiallahu anhu, c'est qu'il était assidu à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخواني من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرئ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فَأَحْضُرُوا إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُوا إِذَا نَسُوا وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, ce hadith montre l'assiduité de Abu Huraira radiallahu anhu avec la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira dit, les gens disent que Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par Allah nous jugera pour ses paroles. Et il continue, il dit, ils disent, pourquoi les muhajirs et pourquoi les ansars ne rapportent pas autant de hadiths que Abu Huraira? Parce que Abu Huraira était connu pour connaître et retenir beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Abu Huraira, mes frères les muhajirines étaient occupés par le commerce dans les marchés. Et mes frères les ansars étaient occupés par leurs richesses et à cultiver leurs terres. Quant à moi, j'étais une personne très pauvre. Et je restais constamment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. Il dit, j'étais présent quand ils étaient absents et je retenais alors qu'ils oubliaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ حِرْصُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَفِعْلِهِ. Parmi les mérites de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est son souci à connaître le bien et à le mettre en pratique. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام والحديث أخرجه ابن حبان. Abu Huraira رضي الله عنه dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, lorsque je te vois, mon âme est apaisée et mes yeux se remplissent de joie. Informe-moi, ô prophète d'Allah, d'un acte. Si je le fais et si je le pratique, je rentrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, répands le salut, nourris les gens, maintiens le lien de parenté, veille la nuit en prière alors que les gens dorment, tu rentreras au paradis en paix. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ حِرْصُهُ عَلَى الْحَدِيثِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ. Parmi les mérites de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est qu'il était soucieux et motivé d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'apprendre la science et le savoir. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والحديث رواه البخاري. Donc ce qui montre le souci et la motivation de Abu Hurayra de connaître le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم et d'apprendre la science, c'est le hadith rapporté par l'imam Bukhari, dans lequel Abu Hurayra radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant: qui sera le plus heureux de profiter de ton intercession le jour du jugement dernier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais sûr que personne ne poserait cette question avant toi, vu ton désir ardent pour le hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: le plus heureux ou la plus heureuse des personnes qui profitera de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité et conviction du cœur et de son âme. ومن مناقبه رضي الله عنه حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Parmi les mérites d'Abu Hurayra رضي الله عنه, c'est qu'il était soucieux d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ceci est la qualité du croyant, ou ceci est une qualité des croyants. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مررت بقوم يتوضؤون، فقال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء، أي أكملوه، كأنه رأى فيهم نقصا أو تقصيرا وخشي عليهم، فقال لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والحديث رواه مسلم. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son authentique que Abu Huraira radiallahu anhu est passé devant des personnes qui étaient en train de faire l'oudou, les ablutions. Et alors Abu Huraira radiallahu anhu leur a dit: faites parfaitement les ablutions, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le feu au talon non lavé pendant l'oudou. C'est-à-dire lorsqu'on fait l'oudou, il faut veiller à se laver parfaitement des talons. واستقبل أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت المرأة: المسجد يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: وله تطيبت؟ فقالت: نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. Et aussi parmi certaines positions qui montrent qu'Abu Hurayra radiallahu anhu était soucieux d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, comme ceci a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, il dit qu'une fois Abu Hurayra radiallahu anhu a rencontré une femme parfumée. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu a demandé à cette femme: où comptes-tu aller? La femme lui a dit: je vais à la mosquée. Et Abu Hurayra radiallahu anhu l'a dit: c'est pour cette raison que tu t'es parfumé? La femme lui a dit: oui. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: toute femme qui sort de chez elle parfumée en allant à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas sa prière jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et qu'elle fasse le lavage comme on fait le lavage des grandes ablutions, le lavage de la janaba. Donc on voit bien qu'Abu Hurayra radiallahu anhu était soucieux d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في كتب الحديث 5374 حديثا، منها 608 في الصحيحين. أبو هريرة رضي الله عنه، c'est quelque chose qu'il faut connaître, C'est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté 5374 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 608 se retrouvent dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Regardez, il s'est converti à l'islam la 7e année, il est resté 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui nous a ramené le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était assidu à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était assoiffé de science. Radiyallahu anhu. Wa tuwfiya radiyallahu anhu sanata 58 aw 59 fil madinati wa dufina fil baqi'a. Radiyallahu ta'ala anhu. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu est mort la 58e ou la 59e année de l'Hégire. Et il a été enterré à Médine, dans le cimetière de l'Baqir. هذا فيما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه. Donc ceci concerne la biographie de Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. الأمر الثاني منزلة الحديث. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la place et l'importance de ce hadith. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال الإمام النووي رحمه الله هو من قواعد الدين. وهذا مذكور في شرح مسلم. Ce hadith est un fondement important de notre religion. L'imam Nawawi rahimahullah dit, dans l'explication de l'authentique de Muslim, il dit ce hadith fait partie des fondements et des bases de cette religion. فهذا الحديث فيه إشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم ما جاء به من الأحكام من غير معارضة ولا مبالغة ولا تنطع. Et ce hadith, dans ce hadith, il y a une indication pour le croyant de l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à tout ce que nous a apporté notre prophète. Et ceci sans s'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans non plus exagérer et sans non plus abuser et être excessif. فهذا الحديث مهم حيث كثير من قواعد الفقه متعلقة به. Ce hadith est aussi important parce que beaucoup de règles de fiqh dépendent de ce hadith et gravitent autour de ce hadith. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Voilà pour ce qui est de l'importance de ce hadith. والآن نرى ماذا نستفيد من هذا الحديث. Maintenant, nous allons voir quelles sont les leçons à retenir, les enseignements à retenir de ce hadith. Et nous allons citer 20 leçons, inshallah. الفائدة الأولى أن لهذا الحديث سببا قد جاء بيانه في صحيح مسلم في كتاب الحج. Première leçon à retenir de ce hadith, c'est que ce hadith a une histoire. La petite partie du hadith qu'on a entendu tout à l'heure vient en réalité dans un grand hadith. Et ceci est expliqué dans l'authentique de l'imam muslim dans le chapitre du pèlerinage. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وقيل هو الأقرع بن حابس فقال رجل من القوم أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في صحيح مسلم. Donc quel est ce grand hadith qui est la cause de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, et ceci dans l'authentique de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit une prêche. Et il dit, ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour vous le hajj, le pèlerinage, accomplissez-le. Alors un homme, et il est dit que c'est Al-Aqra ibn Habis, radiallahu anhu, a dit, est-ce tous les ans que nous devons effectuer le hajj, ô prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et l'homme a répété et réitéré sa question trois fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je répondais par oui, ceci deviendrait obligatoire et vous ne pourrez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez ce que je vous ai donné, car les peuples avant vous ont été anéantis, ont péri à cause de leurs questions excessives et de leurs divergences et leur opposition avec leur prophète. Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la selon vos capacités. Et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Al-fa'idatu thaniya. وجوب ترك واجتناب المنهي عنه وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est l'obligation de délaisser, de s'éloigner de ce qui est interdit. Et cela, tant qu'il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna authentique, prouvant qu'il s'agisse d'une chose détestable ou déconseillée, ce qu'on appelle makruh. Et si cette chose est déconseillée, alors même s'il est permis de la faire, délaisser cette chose est préférable. Et ceci est contenu dans la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous ai interdit, évitez-le, abstenez-vous-en. Par exemple, il y a des choses qui sont interdites, comme par exemple le fait de faire l'adultère, le fait de désobéir aux parents. Il y a des choses qui sont interdites, mais en réalité elles sont déconseillées, comme par exemple le fait de prendre, lorsque quelqu'un te donne quelque chose, de le prendre par la main gauche. Le fait de prendre une chose ou de donner une chose par la main gauche. C'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Al-fa'idatu thalitha. ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه. Troisième leçon à retenir de ce hadith, c'est que délaisser les interdits concerne tous les interdits. Ceci est général, tant qu'il n'y a pas de nécessité, de darura, qui permet de commettre cet interdit. Par exemple, en cas de faim mortelle, la personne est autorisée à manger un animal qui est mort ou un animal qui n'est pas tué, égorgé selon le rite musulman. Ou même de manger du porc. En cas de nécessité, il est permis de faire ça. Al-fa'idatu rabi'a. Wujubu fi'li al-ma'murati bihi wa hadha ma lam yadullu dalilun ala anna al-amra lil-istihbab. Wa ma kana lil-istihbabi yajuzu tarkuhu. وفعله أولى من تركه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il y a obligation d'accomplir ce que on nous a ordonné de faire. Et ceci tant qu'il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna authentique, prouvant que cet ordre n'est pas une obligation mais que c'est une chose recommandée. Ce qu'on appelle mustahab. Et tout ce qui est recommandé, même s'il est permis de le délaisser, le faire est préférable. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. Comme par exemple le fait de faire le siwak. C'est mustahab. Comme le fait par exemple de faire al-rawatib. Les prières qui sont attachées aux prières obligatoires. C'est mustahab. C'est recommandé de le faire, mais c'est pas obligatoire. الفائدة الخامسة أن فعل المأمورات مقيد بالاستطاعة أي لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. La cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que accomplir les ordres, il est conditionné et il dépend de la capacité à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour l'homme de faire ce qui est au-dessus de ses capacités. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon vos capacités. Par exemple, si la personne ne peut pas faire l'eau pour des raisons valables, à ce moment-là, elle peut faire tayammum. Par exemple, si la personne ne peut pas prier debout, pour des raisons valables, la personne peut faire la prière assise, et ainsi de suite. Al-fa'idatu sadisa. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum. Fihi taqyidu imtithali al-amri bil istita'ati duna an-nahy. وذلك أن الترك أهون من الفعل، فالنهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر والفعل فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، وقد يستطاع ذلك وقد لا يستطاع. Sixième leçon à retenir concernant ce hadith concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ce que je vous ai interdit, abstenez-vous de le faire. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Dans cette phrase, accomplir les ordres, les obligations, est conditionné et il dépend de la capacité de la personne à pouvoir le faire, comme on a dit précédemment. Alors que délaisser les interdictions n'est conditionné par rien du tout, si ce n'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'abstenir de faire un interdit est plus facile que d'accomplir un ordre. Parce que s'abstenir de faire un interdit, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça ne demande pas une capacité. Alors que accomplir un ordre qu'Allah ou son prophète nous ont donné dépend de la capacité. Soit on est capable de le faire, soit on ne peut pas le faire. Par exemple, boire de l'alcool. Tout le monde peut s'abstenir de boire de l'alcool. L'homme, pour vivre, n'a pas besoin de boire de l'alcool. Donc devant l'abstention de boire de l'alcool, c'est facile, ça demande seulement de s'abstenir. Alors que par exemple faire la prière debout demande la capacité de faire la prière debout. Et si on ne peut pas le faire debout, alors on peut la faire assis, et si on ne peut pas le faire assis, on peut la faire allongée, et ainsi de suite, comme ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit bien la différence entre faire des obligations et s'abstenir des interdits. الفائدة السابعة أن من عجز على فعل الواجب كله كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. La septième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que celui qui est dans la capacité d'accomplir un ordre totalement, alors il lui suffit de faire ce qu'il peut faire de cet ordre. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Donc toujours l'exemple de la prière, on a l'ordre de faire la prière. Donc, si on ne peut pas la faire debout, de la meilleure des façons, alors on peut la faire assis. Ou par exemple, si la personne n'a pas assez d'eau pour pouvoir faire l'eau d'eau complètement, donc il fait l'eau d'eau avec le peu d'eau qu'il a, et dès qu'il ne reste plus d'eau, alors il fait le tayammum. C'est clair ? الفائدة الثامنة أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول أن يقول هل هو واجب أو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم فالإنسان عبد منقاد لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا خالف العبد فله أن يستفصل في أمره إذا كان واجبا فإنه عليه توبة وإذا كان غير واجب فالتوبة غير واجبة. هنا التفصيل مستحب. Huitième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il ne convient pas à une personne, lorsqu'il entend l'ordre du prophète, de dire: est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est seulement recommandé? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit « Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités, sans distinguer entre ce qui est obligatoire, wajib, et ce qui est recommandé, mustahab. » D'ailleurs, les compagnons, lorsqu'ils recevaient l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissaient, selon leurs capacités, sans chercher à savoir est-ce que c'était obligatoire ou est-ce que c'était mustahab, recommandé. À quel moment il est intéressant de savoir est-ce que tel ordre est obligatoire ou tel ordre est recommandé? C'est lorsque la personne commet une erreur ou transgresse un ordre. Alors là, il est intéressant de savoir si cet ordre est obligatoire ou cet ordre est recommandé, parce que dans le cas où cet ordre est obligatoire, pour s'excuser, la personne doit faire tauba. La tauba est obligatoire. Alors que pour une chose recommandée, il n'y a pas de tauba à faire. La personne est seulement privée de la récompense d'avoir fait un acte recommandable. الفائدة التاسعة أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, fait partie de la religion d'Allah. Que cela soit cité et mentionné dans le Coran, ou que cela soit, ne soit pas cité et mentionné dans le Coran. Parce qu'Allah azza wa jalla dans le Coran nous dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc on voit l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser les interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnées et expliquées. الفائدة العاشرة أن الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها فما سكت عنه الله ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. Dixième leçon à retenir, c'est que les choses sont soit des ordres qu'on nous a demandé de faire, c'est soit des interdictions, alors on doit s'abstenir de les faire, ou soit c'est des choses laissées au silence. Et les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète se sont tus, on doit passer outre. On ne doit pas s'y attarder. On ne doit ni s'obliger de le faire, ni s'interdire de le faire. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous de le faire. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le selon vos capacités. » Et en dehors de cela, arrêtez de me poser des questions. Car ce qui a causé la perte des peuples avant vous, ce sont les questions excessives et leur divergence et leur opposition avec leurs prophètes. الفائدة الحادية عشر أن الإسلام مبني على التيسير ورفع الحرج حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. La onzième leçon